Ce matin, nous allons donc voir dans la parole de notre Dieu, et comme cela a déjà été dit aussi ce matin, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et lorsque nous avons Jésus dans notre vie, nous n'avons besoin de rien d'autre. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique aux chrétiens de Colosse. Certaines personnes enseignaient que pour avoir la foi en Jésus, pour être sauvé, qu'il fallait non seulement croire en Jésus, mais il fallait faire d'autres choses. Enseigner toutes sortes de choses pour penser que pour avoir une spiritualité meilleure, il fallait avoir telle ou telle pratique. Et l'apôtre Paul rappelle que, la simplicité de l'évangile pour dire aux chrétiens que en fait, lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous n'avez besoin de rien d'autre. Et ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous appreniez à mieux le connaître et le laisser agir en vous, et que vous puissiez le glorifier. Donc c'est ça que j'aimerais voir avec vous ce matin, dans ce texte de Colossiens. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 4. Colossiens, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 4, et je vais lire en plusieurs temps ce chapitre. Déjà, je commence avec ce verset 4 qui dit, je commence un peu plus haut, comme pour rester dans le contexte. Je vais commencer au verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. On peut déjà s'arrêter là. Dans le verset 3, l'apôtre Paul rappelle que quand Christ, il dit, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc ce qui signifie qu'en dehors de Christ, la sagesse et la connaissance des hommes sont considérées comme pure folie pour Dieu. Alors, certainement, il y avait des gens qui enseignaient justement pour atteindre la sagesse, pour avoir la connaissance nécessaire, pour connaître Dieu, il fallait faire telle ou telle chose. Et donc, c'est en Jésus-Christ qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En 1 Corinthiens, chapitre 1, dans les versets 17 et suivants, l'apôtre compare la sagesse du monde à la sagesse de Dieu. Et il dit, au verset 19 à 20, il dit que « Je détruirai la sagesse des sages » et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Et il dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Alors, pour montrer la folie de la sagesse du monde, qui justement qui n'a pas voulu reconnaître dans... Dieu dit, il se révèle dans, même en regardant la nature, on voit qu'il y a un Dieu qui existe. Alors, Dieu a montré justement la puissance de sa sagesse par le moyen de la prédication. Et il dit, il montre donc à tous ces sages que, il dit au chapitre 1, toujours de Corinthiens, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et donc, c'est par le biais de l'annonce de l'évangile, la prédication de la croix, non avec l'apôtre Paul dit des discours persuasifs de la sagesse humaine qu'il a annoncé Christ, ce n'est pas par cela, mais il a fait une démonstration d'esprit, laissant le Seigneur le conduire, et par ce biais, par la prédication, Dieu touche les cœurs et des hommes viennent à Christ. Mais malheureusement, à cause de son orgueil et de son rejet de Dieu, l'homme a toujours cherché, par ses propres moyens, à connaître justement tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors que les trésors de la sagesse et de la connaissance, il est dit, c'est en Jésus-Christ qu'ils sont. Et l'homme veut chercher par lui-même, par tous ses moyens, à avoir la connaissance, à avoir la sagesse. Et dans cette recherche, l'homme a érigé toutes sortes de systèmes de pensée, toutes sortes de pratiques, pour chercher à comprendre l'univers, à comprendre comment est formé le système solaire, le commencement de tout cela, l'origine de l'homme. Toutes ces questions pour dire, voilà, mais on veut aller et puis comprendre, connaître. Et en même temps, nier Dieu, nier l'existence de Dieu. L'Ecclésiaste nous dit que Dieu a mis dans... dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc en tout homme il y a cette recherche de l'existence de Dieu, et Dieu, la Bible nous dit dans Romains qu'il se révèle par la nature et il se révèle par sa parole. Et le Seigneur Jésus est celui qui a fait connaître Dieu. Donc au lieu d'utiliser les moyens que Dieu a donné pour se faire connaître, l'homme cherche par ses propres moyens à connaître Dieu en mettant en place donc ces systèmes-là de pensée purement humains pour dire à l'homme, voilà, si tu veux connaître Dieu, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. Et le Seigneur Jésus, lorsque ses disciples sont revenus, ils ont fait des miracles, le Seigneur Jésus s'est réjoui. Et il a loué le Seigneur justement pour ça et pour ce que Dieu fait. Et j'aimerais que nous lisions ensemble ce texte de Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, à partir du verset 25. Matthieu 11, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc le Seigneur dit que Dieu révèle ces choses. Alors, dans ces choses, c'est tout ce que les disciples ont pu accomplir et faire en son nom. Il révèle cela aux enfants. Il dit, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Lorsque le Seigneur parle des enfants, et ça fait toujours plaisir de les entendre parmi nous les dimanches en train de prier, c'est extraordinaire. Il dit, il cache ces choses aux sages et aux intelligents et il les révèle aux enfants. Les enfants sont ceux qui reconnaissent leurs limites, ceux qui reconnaissent leur insuffisance, ceux qui reconnaissent leurs besoins d'assistance, ceux qui font preuve d'humilité, qui reconnaissent leur pauvreté, qui reconnaissent qu'ils ont un fardeau qui est trop lourd à porter et qu'ils ont besoin d'aide et qu'une autre personne pourrait, plus forte, pourrait les aider et accepte l'aide apportée. Et donc, le Seigneur dit que Dieu révèle ces choses aux enfants, à ses enfants. Et c'est pour cela qu'il dit à ses disciples, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent. » Donc, pour avoir la connaissance, la sagesse, selon Dieu, il faut être comme un enfant. Il faut être un enfant. Reconnaître ses limites, reconnaître son besoin de Dieu, reconnaître que par soi-même, on ne peut rien faire et qu'on a besoin de Dieu. Et lorsqu'on se voit comme un enfant, le Seigneur nous révèle sa parole et il nous montre ce qu'il attend de nous. Donc, cette quête de connaître Dieu ne peut aboutir que si l'on reconnaît son humilité devant le Seigneur. Et cette quête de connaître Dieu ne peut se faire que si on accepte le moyen de salut voulu par Dieu, donc en mettant sa foi en Jésus. Et donc, c'est ce qu'ont fait les chrétiens de Colosse. Ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 6. Ils ont reçu le Seigneur. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, voilà, ils ont mis leur foi en lui. Et donc, le Seigneur leur donne la connaissance et ce mystère caché qu'est Christ. Alors, ils ont ce qu'il est nécessaire. Les Colossiens ont mis leur foi en Jésus, tout comme les Éphésiens, lorsqu'ils ont entendu la parole de la vérité, l'évangile de leur salut, en lui, ils ont cru et ils ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'apôtre Jean aussi nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc, c'est en reconnaissant son besoin de Dieu, en faisant preuve d'humilité, donc en étant comme ses enfants, on reconnaît qu'on a besoin de Jésus, que c'est lui le moyen de salut, on met sa foi en lui et il nous donne son esprit. Et c'est son esprit qui va nous conduire, qui va nous révéler les choses de Dieu et qui va donc nous éclairer, nous donner la sagesse dont nous avons besoin et les connaissances nécessaires. L'apôtre Paul explique que c'est son esprit donc qui va nous faire cela parce qu'il dit que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, 11, il dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, dans 1 Corinthiens 2, verset 10. Et donc, pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu qui vient de Dieu. Alors, l'apôtre Paul veut avertir ces chrétiens de Colosse qui ont mis leur foi en Jésus, donc qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur, et il leur dit, puisque vous avez Jésus, vous n'avez besoin de rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. La connaissance, la sagesse vient parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Et donc, pas besoin de faire quelques formations spécifiques, quelques expériences spécifiques pour avoir un tel niveau de spiritualité, pour avoir telle ou telle connaissance, puisque vous avez Jésus. Et donc, c'est en cela qu'il dit, vous avez tout pleinement en Christ. Et donc, il veut avertir ces chrétiens de Colosse qui peuvent être ébranlés par de faux docteurs. Et ce texte est, bien sûr, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, d'actualité, puisque peut-être encore plus qu'avant, nous pouvons être là au proie à ces personnes qui annoncent toutes sortes de choses par le biais de la télévision, l'Internet, etc. Et donc, ce texte est là pour nous mettre en garde contre ces faux docteurs, ces prédicateurs que nous écoutons, ces enseignements que nous entendons, ou qui nous montrent que, voilà, pour avoir une vie chrétienne épanouie, beaucoup plus spirituelle, pour être plus proche de Dieu, il faut faire telle ou telle chose. Et l'apôtre Paul dit non. Vous avez tout pleinement en Christ, ce qu'il dit, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Alors, je vais voir avec vous les quelques points concernant ces faux enseignements, justement, qui pourraient penser, faire croire à l'homme que pour avoir le salut, ou bien si le salut, mais pour pouvoir atteindre un certain niveau de spiritualité, qu'il faut faire telle ou telle chose. Et donc l'apôtre Paul dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, la première mise en garde qu'il fait, nous allons lire les versets 8 à 15. Là, quand il dit au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. On peut s'arrêter là. Alors l'apôtre Paul avertit ses chrétiens et il dit, faites attention à ceux qui nient la toute suffisance de Jésus-Christ, pour le salut ou pour votre vie chrétienne, ce qui s'appuie sur les philosophies humaines, dans les versets 8 à 15. Donc ces philosophies humaines, c'est tous ces systèmes de pensée développés par les hommes qui s'appuient non seulement sur la tradition des hommes qui les ont précédés, mais aussi sur les principes purement humains. Et ce que ces hommes, que l'apôtre Paul les appelle les raisonneurs de ce siècle, que Dieu a convaincu de folie. Il dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Donc lorsqu'on rejette Dieu et qu'on met en place tout un système de pensée, pour Dieu ce n'est que folie. Et ces raisonneurs de ce siècle, ces sages aux yeux du monde et ces faux docteurs qui trompent les gens en distillant des pensées humaines, alors dans ce texte nous pouvons voir plusieurs éléments. Il dit que ces personnes nient en fait la pleine divinité et la pleine humanité de Jésus. Il dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et donc, l'apôtre Paul souligne que Jésus, quand il était sur terre, il était pleinement Dieu. Ces personnes-là, ces faux docteurs, veulent aussi, peut-être des faux docteurs d'origine juive, veulent la circoncision des païens, donc des personnes d'origine non juive, dans les versets 11 à 12. Et l'apôtre Paul explique que la circoncision, elle est du cœur, et que notre circoncision, il est dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Donc, il explique que le païen n'est pas obligé de se faire circoncire. Après, dans les versets 13 à 15, on voit que ces gens, pousser les chrétiens à venir et les suivre, ils tiennent un discours culpabilisant. Dans ces versets 13 à 15, comme s'ils cherchent constamment à reprocher aux chrétiens leur péché. Ils font croire que Dieu n'a pas pardonné tous les péchés et que le chrétien peut être encore sous la domination du malin et de ses anges. Alors, c'est là que l'apôtre Paul dit, mais Jésus, il a eu une victoire totale sur le péché. Il a eu une victoire totale sur la mort, il a eu une victoire totale sur le diable et sur tous les esprits méchants, les esprits mauvais. Et donc, la mort de Jésus à la croix a été le prix payé, qu'il a dû payer à notre place pour effacer les 10 actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Et donc, grâce au sacrifice de notre Seigneur, alors, il est dit que lorsque nous confessons nos péchés, le Seigneur nous pardonne parfaitement toutes les offenses que nous avons pu commettre, et puisque nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Et donc, en cela, le chrétien n'a pas à vivre dans la culpabilité. C'est non, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a libéré de tes offenses. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est terminé. Et ces faux docteurs tiennent ces discours culpabilisants pour faire croire aux chrétiens, voilà, s'il y a ça, c'est parce que, oui, tu as eu tel péché, telle ou telle chose. Alors, on peut lire dans les versets 16 à 17 que le message aussi de l'apôtre Paul, la mise en garde de l'apôtre Paul, c'est que ces chrétiens qui veulent, ou ces gens qui annoncent une spiritualité beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, incitent les gens à pratiquer toutes sortes de rites pour, soi-disant, être de meilleurs chrétiens. Dans les versets 16 et suivants, nous pouvons lire que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas », préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Voyez ? Et donc, ces personnes, voilà, pour avoir une meilleure spiritualité, voilà, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, on n'arrête pas d'ajouter les choses. Et là, l'apôtre Paul dénonce le légalisme, c'est tous ces systèmes de lois, de règles que l'on demande aux fidèles de pratiquer pour atteindre un certain donc, degré de spiritualité. Et l'apôtre Paul a expliqué aux Galates que le Seigneur nous a affranchis de tout cela. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, il est dit. Et pour ce qui concerne le manger et le boire, le chrétien, il est libre de prendre ce qu'il veut. Aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul dit de manger de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Donc vous avez des gens qui vous disent « Ah oui, il ne faut pas manger ceci, pendant une période tu ne manges pas cela, etc. etc. » Attention. Donc l'apôtre rappelle que toutes les lois qui ont été données à Israël pour ce qui concerne la nourriture, les fêtes, la nouvelle lune et les sabbats, eh bien, ils disent que tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Et donc, en Christ, nous ne sommes plus obligés d'observer ces lois puisque Christ les a accomplies. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, mais sous la nouvelle alliance qui a remplacé la première. Le chrétien ne doit pas pratiquer la loi, car l'objectif de cette loi, c'était de montrer à l'homme qu'il est pécheur et qu'il avait besoin de Jésus-Christ, il avait besoin du moyen de salut que Dieu donnait. Alors ces mises en garde, frères et sœurs, sont là pour nous aujourd'hui, parce que nous entendons de plus en plus de personnes qui annoncent des choses qui sont contraires à la parole. Et malheureusement, le chrétien s'abreuve de ces paroles et s'éloigne de la simplicité de l'évangile, qui s'éloigne de ce que Dieu demande simplement. C'est de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Apprenez à connaître Christ et laissez Dieu agir en vous. Ce que Dieu demande, ce n'est pas de pratiquer ces choses. Ce que Dieu demande tout simplement, c'est de mettre sa foi en Jésus pour le salut. Donc, il y a là une nécessité. C'est déjà la première des choses. Et c'est en ayant en mettant sa foi en Jésus, qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. L'autre chose, c'est de demeurer en Christ. C'est ce que Dieu demande, tout simplement. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, donc ne cherchons pas autre chose que Christ. Il dit donc dans ce verset, « Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. » Et donc la vie chrétienne, c'est ça. C'est comment faire pour grandir dans ma connaissance du Seigneur? Je vais lire ma Bible, je vais venir à l'église, je vais profiter de toutes les situations pour grandir dans la connaissance de mon Seigneur. Je ne vais pas me laisser dominer par le péché ou quoi qu'autre chose. Et puis, je vais le Seigneur agir en moi et aimer mon prochain. Et en aimant mon prochain, j'aime Dieu. Et ça me permet aussi de grandir en tant que personne. Donc, laissons le Seigneur agir en nous. Et puis, l'autre chose que l'apôtre Paul dit, mais que je vais voir avec vous par la suite, c'est garder les yeux vers le ciel. Au chapitre 3, il dit au verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc au lieu de vous laisser influencer par tous ces hommes qui annoncent toutes ces pratiques-là, marchez, restez, avancez dans votre vie chrétienne, étant enracinés et fondés en lui, et gardez les yeux fixés vers le ciel en attendant le retour de votre Seigneur. Que le Seigneur nous aide, jour après jour, à ne pas nous écarter de la saine doctrine, à voir que le fait d'avoir Christ dans sa vie est tout suffisant. Vous avez tout pleinement en lui. Le Seigneur Jésus-Christ vient habiter en nous, c'est ce que la parole dit. Et donc, nous n'avons besoin de rien d'autre. Que le Seigneur nous aide avec cela jour après jour et que nous puissions l'honorer et le glorifier.